capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima au Kasaï oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. L'Association africaine des droits de l'homme demande au président de la République de profiter de la commémoration de la mort de Laurent Désiré Kabila pour gracier les condamnés dans son procès. Dans une déclaration à la presse à Kinshasa, c'était le 16 janvier dernier, date d'anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, le maître Jean-Claude Katende a rappelé que ces condamnés avaient bénéficié de plusieurs lois d'amnistie non exécutées pour des raisons inexpliquées. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Cette émission est mise en onde par Jean-Claude Ntiala. Nico Kalambay est à la réalisation. Et pour moi, Pierrot et la Mégie, c'est un réel plaisir de vous la présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Alors vous pouvez aussi, si vous avez la possibilité, rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs pour commenter à ces sujets. Maître Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour et c'est un plaisir, Monsieur Pierrot et la Mégie. Et je voudrais vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte.
Et pourquoi vous militez pour que le président de la République puisse gracier les condamnés dans le procès d'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila?
Monsieur Pierrot et Lomenji, je pense que c'est important que pendant ce mois où nous avons célébré le 19e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, que nous puissions saluer la mémoire de cet homme qui a été, je crois, une bénédiction pour notre pays, surtout que c'est un des rares politiciens congolais qui croyait que la République démocratique du Congo pouvait financer son propre développement. Par rapport à votre question, il faut trouver les raisons de notre engagement pour la grâce accordée à M. Eddy Capin et ses compagnons dans le déroulement même du procès qui a eu lieu devant la Cour d'ordre militaire il y a plusieurs années. Et l'une des raisons, c'est que après avoir prononcé l'arrêt dans cette affaire, le président de la Cour d'ordre militaire avait dit que les enquêtes allaient se poursuivre. Et la question que nous nous posons, c'est celle de savoir comment on peut condamner des Congolais, des citoyens congolais, à des peines aussi fortes alors que les enquêtes n'étaient pas bouclées dans cette cause. Cette précipitation de la Cour d'ordre militaire de l'époque est à la base de toutes les injustices qui ont été subies par les personnes qui ont été condamnées. Mais au-delà de cette question liée au procès, il faut souligner le fait que plusieurs lois d'amnistie qui ont été prises dans ce pays devraient aussi bénéficier à M. Eddy Capin et ses compagnons. Mais pour des raisons que nous n'avons jamais identifiées, ces personnes ont été soustraites du bénéfice de toutes ces lois d'amnistie. Et enfin, je souligne ici les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui en son temps, après avoir examiné tous les faits et les droits en rapport avec l'affaire Eddy Capin et ses compagnons, avait demandé à la République démocratique du Congo de pouvoir libérer tous les prisonniers compte tenu du fait que le procès qui a été à la base de leur condamnation n'était ni juste ni équitable.
Mais alors, si nous revenons dans les faits aujourd'hui, on sait que l'article, je crois bien, 87 de la Constitution donne au président de la République son droit discrétionnaire d'exercer la grâce présidentielle. Mais est-ce que cette grâce peut être accordée aux gens dans le cadre d'un assassinat d'un ancien chef de l'État? Est-ce que cela est possible? Sur le plan juridique, sur les faits des droits.
Je dois d'abord vous dire, Monsieur Pierrot et Lamengi, que les décisions ou les résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'imposent à notre gouvernement, qui doit en fait les mettre en œuvre, parce que ça c'est important. Et vous savez que sous les régimes du président Kabila, toutes les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples n'ont jamais été mises en œuvre. Rappelez-vous les magistrats qui ont été révoqués vers les années 2008-2009, qui ont bénéficié aussi de certaines recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour qu'ils soient réhabilités dans leurs fonctions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne l'a jamais fait. Je pense que le point de départ...
Est-ce que ces résolutions, recommandations sont contraignantes ou bien c'est juste une proposition qui peut ou ne pas être exécutée par le pays?
Non, vous savez qu'il y a une différence entre les États de l'Afrique centrale et les États de l'Afrique de l'Ouest. Et dans une démocratie, quand les dirigeants d'un pays sont attachés à la démocratie, attachés aux engagements qu'ils prennent sur le plan international... En tant que personnalité civilisée, ils doivent, en fait, suivre les recommandations qui sont faites. Pourquoi? Parce que notre pays a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui institue la Commission. Ça veut dire que nous avons accepté volontairement, en ratifiant ces instruments, de nous soumettre aux recommandations de la Commission. Parce que il faut savoir que la Commission prend ses décisions après avoir entendu toutes les parties en cause. Ça veut dire les personnes qui ont fait la communication, mais aussi l'État qui est mis en cause. Et quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, quelles que soient les recommandations faites par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ces pays font des efforts pour les mettre en œuvre. On ne peut pas adhérer, on ne peut pas ratifier les instruments d'une institution et se refuser de mettre en œuvre ces recommandations.
Et ça dit que si nous suivons en ce qui concerne les condamnés dans ces procès assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, vous avez parlé d'Edi Kapende et les autres, ça dit que nous avons trois schémas. Nous avons les recommandations de la commission de par rapport à
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Nous avons la grâce présidentielle, nous avons les différentes lois d'amnistie. Mais aujourd'hui, dans votre démarche, quelle est la démarche qu'il faut privilégier aujourd'hui qui peut arriver à résoudre cette question?
La démarche que nous voulons aujourd'hui, c'est que le président de la République, qui avait déjà promis à l'époque où la ZADO et d'autres organisations de droits de l'homme et les familles des victimes des personnes condamnées faisions des marches pour qu'on puisse les libérer, le président de la République avait promis qu'il se pencherait sur ces dossiers. Et aujourd'hui, en rapport avec votre première question, il faut dire que toute personne qui a été condamnée par un jugement définitif peut bénéficier de la grâce du président de la République.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions.
Non, je pense que la première condition, c'est d'être condamné de manière définitive. Voyez-vous? Et nous avons...
Quelle que soit la cause de la condamnation.
Quelle que soit la cause de la condamnation, parce que, en fait, la grâce présidentielle, c'est à la discrétion du président de la République. C'est un pouvoir que la Constitution lui donne et il peut faire bénéficier ce pouvoir à qui il veut. Et dans le cas sous examen, il y a des personnes qui ont été condamnées à la peine de 20 ans, à la peine qui n'est pas encore à son terme aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont été condamnées à la peine capitale, qui est en train de courir aujourd'hui, même si nous savons que il y a un moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Le président de la République peut le faire. Et je pense que garder ses personnalités et Edi Kapende et ses compagnons en prison, en dépit de tout ce que nous avons énuméré, comme avantage dont il devrait être bénéficiaire, je pense que c'est insoutenable moralement. C'est, voilà. En fait, ça viole la justice. Nous ne devons pas être un pays où nous nous contentons de voir des individus, des compatriotes, des citoyens congolais en prison alors que nous savons que le procès qui a conduit à leur condamnation n'était pas un procès digne de notre siècle.
Alors on va écouter les auditeurs, ce qu'ils en pensent. Rappelons que dans ces procès, 135 personnes ont été inculpées, 30 personnes condamnées à mort, 60 condamnées à des peines d'emprisonnement allant des 6 mois à la réclusion criminelle à perpétuité et 45 ont été acquittées. 081-890-4969 pour intervenir en direct. Adrien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Urban Scène, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tous les jeudis et vendredis à 15h30. Le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa, avec DJ Daddy.
Parole aux auditeurs.
Adrien, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Bonjour à Maître Jean-Claude Katende. Bonjour aussi à tous les amis auditeurs.
Comment commentez-vous cette démarche?
Oui, merci beaucoup, Pierrot, de l'occasion que vous m'offrez. Mais permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille de M. François Siki Tétani Mbemba, le consultant Sport Radio Okapi. Pierrot, je pense que je ne suis pas d'accord avec la démarche entamée par l'Azado et particulièrement par Maître Jean-Claude Katende. Parce que la question dont on fait allusion sur l'assassinat, donc les assassins de Laurent Désiré Kabila, parce que nous ne pourrons plus les appeler le présumé parce qu'ils ont été condamnés, mais ce sont les assassins, donc font partie d'une question sensible pour un État qui est aussi fragile comme le nôtre. Donc au jour d'aujourd'hui, traiter cette question-là pour demander au chef de l'État pour qu'il puisse signer donc une ordonnance afin qu'on puisse libérer nos amis les Lady Capen et les autres, c'est aller un peu vite en besogne, à mon humble avis. Parce que aujourd'hui, je ne comprends pas donc sur quel pied l'Azado est en train de danser. Tantôt, elle fait allusion aux résolutions donc de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Tantôt, elle fait allusion aux différentes amnisties signées par le Parlement. Et tantôt, elle demande au chef de l'État. Moi, je pense ceci. À partir du moment où cette question a été soumise à l'ancienne Cour suprême de justice pour définir l'assassinat d'un chef de l'État, la réponse, donc l'arrêt qui était sorti par la Cour suprême de justice, moi je pense que cet arrêt-là avait déjà réglé la situation. Parce que d'aucuns pensaient que l'assassinat d'un chef de l'État était un crime politique. Mais la Cour suprême de justice a estimé que c'était une infraction de droit commun. Et à partir du moment où l'arrêt a donné cette lumière, ce que l'Azado pouvait faire, l'Azado pouvait exploiter tout simplement les voies de recours extraordinaires pour contraindre maintenant la justice congolaise de voir comment est-ce qu'il faut soit revenir sur la décision, soit confirmer la décision. Faire allusion aux résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, premièrement, ces résolutions-là n'ont aucun caractère obligatoire vis-à-vis d'une justice qui est indépendante, qui est même le levier du pouvoir d'un État. Donc un pays qui s'hasarderait de suivre une résolution d'une commission donc africaine des droits de l'homme et du peuple pour dire n'importe quoi, je pense que ça sera un État faible à mon humble avis. Deuxièmement, aujourd'hui, ce que l'Azado pouvait faire, pouvait prendre tout simplement la seule démarche pour demander au chef de l'État, parce qu'il y a une décision définitive pour nos amis qui sont à Makala, et demander au chef de l'État, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut ou ne pas prendre cette décision-là. Au lieu de mettre la pression sur le chef de l'État comme l'Azado est en train de le faire, moi je pense que ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas bon. Donc la démarche, la seule démarche qui peut aboutir, c'est de demander au chef de l'État et lui donner le temps. Parce que je vous avais dit d'entrée déjà que c'était une question sensible. Un chef de l'État qui est venu aujourd'hui reconnu comme l'un des héros nationaux, donc traiter cette question-là avec légèreté, risque de plonger le pays dans une crise. Parce que non seulement ses proches politiques, sa famille biologique sont en train de suivre, donc de voir comment est-ce que l'État congolais doit gérer cette question. Donc si la question...
Alors pour vous, Adrien, ça dit que votre démarche, elle s'inscrit en deux. Ça dit que sur le plan des droits, vous estimez qu'il n'y a pas une voie qui pousse l'Azado à demander l'amnistie, qui d'abord, vous l'avez dit, ça reste un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, il faut lui donner le temps, il faut pas faire des pressions. D'un côté, vous estimez que la seule démarche, elle pouvait être le réexamen du procès s'il y a d'autres voies de recours, mais d'un côté, vous estimez que sur question des sensibilités politiques sécuritaires, on ne peut pas s'engager dans cette démarche. Merci beaucoup, Adrien, de votre point de vue. On reste avec vous, Omar, vous êtes à Kinshasa. Comment commentez-vous cette démarche? Vous avez suivi ce que venait de dire tout à l'heure les compatriotes Adrien. Omar, bonjour.
Bonjour, Pierrot, bonjour à l'invité.
On vous écoute, oui.
Merci, Pierrot, du verbe que vous m'adjugez. Nous l'avons toujours dit et nous les reprendrons aussi longtemps qu'on vivra que dans un état de droit, le respect et la promotion des droits de l'homme sont des vecteurs essentiels sans lesquels l'état de droit n'a pas son sens. Mais je voudrais aller avec des précisions rapidement par rapport à votre question principale. Les ONG des droits de l'homme sont des groupes de pression à l'instar des partis politiques. Leur mission, c'est d'influencer les décisions des gouvernements. Elles sont là, ces ONG, pour défendre le droit de tous les citoyens. On a comme les pressions en Afrique et particulièrement au Congo. Ces ONG s'accommodent aux partis politiques de l'opposition, du pouvoir. C'est plus politique. Il y a des colonnes qui tuent les gens chaque jour. On ne voit pas les ONG se lever. Il y a des policiers qui ont été tués lors de la marche des étudiants. On n'a pas vu les ONG. Il y a des fonctionnaires qui sont mal payés, des maisons inondées. Les droits de l'homme sont diversifiés. Il ne faut pas se limiter aux droits politiques. Lorsqu'on parle des élections, la machine à voter, l'amnistie, on voit les ONG des droits de l'homme s'élever. Mais lorsque des droits fondamentaux, sociaux, environnementaux, on n'en parlait pas. Deuxième précision, l'amnistie est une mesure législative, elle est votée par la loi. La grâce est une mesure administrative prise par les présidents. Ces deux mesures sont des mesures d'effacement ou de suppression des peines qui ont été prises. Leur but, c'est d'instaurer la paix et la réconciliation nationale. Il faudra préciser qu'elles ne sont pas obligatoires. C'est une faveur qu'on demande au président ou encore au Parlement pour un plus précis. Réconciliation nationale. Mais la constitution que vous évoquez a fixé les cadres généraux. On peut amnistier, c'est-à-dire les parlements d'un pays peut prendre une loi, amnistier certaines personnes. On a vu ça avec les amnistiers de paix de l'Est qui ont été tués, mais on a certains qui sont membres du gouvernement. Je ne sais pas ce qu'ils ont été amnistiés. C'est une loi prise au Parlement pour effacer la peine de certaines personnes qui ont commis des graves crimes ou des crimes normaux. Mais le code pénal, la loi qui a été votée en 1940, telle qu'elle est modifiée à ce jour, a prévu les conditions pour qu'il y ait grâce ou qu'il y ait peine. Il ne faut pas que l'invité dise « le président peut gracier ». Oui, il peut gracier, mais c'est sous réserve des conditions. Ces conditions doivent être réunies. Toute infraction n'est pas amnistiable, toute infraction n'est pas graciable. Il faudra préciser, la loi se loge dans l'nuance. Autant la loi prévoit des principes, autant la loi prévoit des exceptions. Je voudrais que l'invité, lorsqu'il parle, qu'il précise à la population que le président peut gracier, mais sous réserve des conditions prévues par les codes pénales. Le Parlement n'est pas amnistié, mais sous réserve prévue. Je pense que tous les assassins des musées ne sont pas forcément amnistiables. Quatrième précision, par rapport à la demande de l'Azado, je suis d'accord, c'est sa liberté d'expression. L'Azado peut opiner comme elle veut, c'est l'état de droit, la liberté d'opinion. Mais je pense qu'il faudra que le premier travail soit fait. il faudra qu'on puisse publier, vulgariser ces différentes lois, qu'on dise qui ont effectivement été amnistiés, qui n'ont pas été amnistiés. Par rapport à sa première demande, qui demande à ce qu'on puisse amnistier ceux qui ont déjà été, je pense que cela doit être fait, parce que nous sommes un état de droit, et l'état de droit n'a de sens que lorsque les lois qui sont prises sont respectées. Je l'ai dit dès l'éliminaire de ma cogitation que l'amnistie est une loi, et une loi elle doit être respectée. On a vu ça avec les Roubaix-Rois, les Bembe, les autres qui ont fait la guerre à l'Est, ils ont été amnistiés. Autant aussi on doit les faire pour autres, parce que l'état de droit, c'est aussi la justice. Mais par rapport à la grâce que Lazado demande, je trouve que c'est une demande normale. Nous sommes un état de droit, on peut opiner comme on veut, mais n'est pas opportune. Comme l'a dit Maître Adrien, le contexte politique ne nous le permet pas. Vous savez, aujourd'hui, très cher Pierrot, qui peut supporter de voir l'assassin de son fils en fait de se promener inutilement? C'est facile de dire aux gens d'amnistie ou de gracier. Mais est-ce que vous tenez compte de la douleur de la victime? Je prends le cas d'un père qui vit dans un quartier et qui voit le clown qui a violé sa fille être amnistié. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est bien de demander la ministre de la grâce, mais pensez aussi aux conséquences politiques, d'autres sécuritaires d'abord. Est-ce que ces gens, quand ils vont sortir, ils seront vraiment à l'aise des deux? Est-ce que c'est l'opportunité pour le moment? Maintenant, le peuple a besoin de la paix, le peuple a besoin de l'argent, le peuple a besoin du travail. Vous vous demandez à ce qu'on puisse gracier les gens. L'essence de la justice, c'est lorsque les gens qui ont fait des crimes soient condamnés. Et l'amnistie ou la grâce ne peuvent être demandées que de manière urgente et nécessaire. Est-ce qu'il est nécessaire et opportun maintenant qu'on libère, qu'on gracie ces gens qui, du reste, ont été condamnés? Par rapport à l'amnistie, il y a
mais, pas mais de est-ce pas. Que, Omar, parce que vous insistez sur la question du contexte de sensibilité politique sécuritaire, mais vous avez aussi évoqué l'amnistie de ceux, par exemple, qui ont fait la guerre à l'Est. Hein. Vous avez parlé des gens qui sont même dans les institutions. Quelle peut être la différence au niveau de ces personnes qui ont commis des crimes, qui ont aujourd'hui reçu l'amnistie, qui se retrouvent dans les institutions, et par rapport à ceux qui ont été condamnés dans le procès de l'assassinat de Moïse? Et quelle peut être la différence au niveau de la sensibilité, Omar?
Merci beaucoup, Pierrot. C'est au niveau des enjeux. À l'époque, lorsqu'il fallait amnistier les gens qui ont fait la guerre à l'Est, il y avait deux buts principaux. Qu'il y ait la paix en RDC parce qu'il y avait des poches de tension et les différents leaders se sont réunis. Ils ont pris l'engagement de mettre la paix. On a mis d'abord de côté les sentiments politiques, les forces. Il fallait qu'il y ait la paix. Mmh. Et pour qu'il y ait la paix, il faudra réunir tous les ténors des conflits. Deuxièmement, il fallait réunifier l'armée. L'armée était divisée, il y avait plusieurs ramifications. Chaque portion de l'armée avait son leader qui l'écoutait. Il fallait donc mettre les gens ensemble pour qu'on puisse dire désormais on travaille ensemble dans l'unité. Donc, il y avait souci d'unité de paix et de la réunification de l'armée. Actuellement, lorsqu'il faut gracier, quel est l'enjeu politique? Quel est l'enjeu sécuritaire? Quel est l'enjeu pacifique et de mer? Non, je pense à l'époque, ça choquait de voir des gens qui ont pilé des femmes devenir ministre ou vice-président, des gens qui ont violé, qui ont pillé l'armée, mais c'était le but. Comme on dit en latin, salus populus suprema est. Le salut du peuple, l'intérêt du peuple demeure la loi suprême. Donc il avait un intérêt majeur qui s'imposait, qui était la paix, et on ne pouvait pas avoir la paix à l'époque.
Mais alors, vous estimez qu'aujourd'hui, demander la grâce, il n'y a pas un intérêt majeur, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan de la paix, ni sur le plan de la cohésion. Merci beaucoup, Omar. On écoute Jonas qui est à Kanang. On va revenir dans ce studio pour que mettre place Emo. Jonas, merci d'être avec nous. Vous êtes à Kanang, au Kasaï Central. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, merci également de la parole que vous m'accordez.
On vous écoute. Bon,
je ne dirai pas assez, le sujet est tellement juridique que je n'ai pas fait le droit. Mais le moins que je puisse dire, c'est peut-être poser quelques petites questions à Maître Jean-Claude Katende, que nous saluons en passant. Qu'est-ce qui a vraiment motivé cette démarche qu'il est en train d'entreprendre? Et pourquoi il a attendu l'accession de M. Félix au pouvoir pour commencer à mettre une sorte de pression pour solliciter une amnistie pour ceux qui avaient été condamnés dans l'assassinat du feu président Moïse Laurent-Désiré Kabila. Et en plus, le président sortant, Joseph Kabila, régnait pendant 18 ans de pouvoir. Et M. Jean-Claude Katende était déjà là avec Lazado. Pourquoi il n'a pas voulu entreprendre les telles démarches à cette époque-là? Et puis aussi, pourquoi a-t-il limité sa démarche seulement au niveau de gens comme Maître Adrien l'a dit, des criminels qui avaient assassiné, qui étaient condamnés pour l'assassinat d'un chef de l'État? Il limite seulement sa démarche à ce niveau-là. Et pourtant, ce n'est pas un secret de policière. Nous savons que dans des prisons à travers le pays, il y a des gens qui sont en train de croupir innocemment pour des faits bénins. peut-être les faits pour lesquels Lazano sont quittés afin de plaider cette cause-là et dégager les prisons qui sont du reste vraiment remplies, étouffées, mm-hmm. pour des crimes, on dirait, qui ne disent pas leur nom. Mais plutôt, lui va insister sur, sur ceux-là qui avaient assassiné. Est-ce que ça ne serait pas plutôt une façon d'encourager les professionnels des grandes bévues comme ça pour dire non, commettez des infractions, allons-y, quand vous serez là, nous allons entreprendre des démarches pour vous libérer.
Merci beaucoup, Jonas. Vous avez posé vraiment autant de questions à notre invité, Maître Jean-Claude Katende. Hein. Ça, c'est que les autres ont dit sur l'opportunité de la démarche, mais est-ce qu'elle ne peut pas encourager d'autres personnes à commettre des crimes demain parce qu'un jour, ils pourront bénéficier de l'amnistie ou même de la grâce présidentielle 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Maître Jean-Claude Katende, vous avez suivi les compatriotes, apparemment, ceux qui se sont exprimés se posent des questions sur l'opportunité. Est-ce que c'est important pour le faire aujourd'hui? Y a-t-il pas des conditions pour une grâce présidentielle? Voilà comment cela suscite vraiment un débat assez intéressant.
Oui. Je voudrais remercier tous les auditeurs qui sont intervenus tout à l'heure. Le débat était très intéressant, mais globalement, je voudrais dire que Lazado ne s'est pas occupé du dossier Eddy Capin et ses compagnons seulement à l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est un dossier sur lequel nous sommes depuis plusieurs années. Nous sommes déjà intervenus sur les antennes de la radio Capi, à certaines occasions, avant même que le président Félix ne soit au pouvoir. Donc, l'opportunité pour nous, c'est que aujourd'hui, nous avons un président qui met au centre de ses préoccupations les questions du respect des droits de l'homme. Alors que M. Kabila, les questions des droits de l'homme n'étaient pas des questions prioritaires pour lui. Et donc, les auditeurs de la radio Capi, comme tous les autres Congolais qui nous suivent, doivent mettre en tête cet élément très important que nous avons un président sensible aux questions des droits de l'homme, aux questions des justices. Et nous pensons que c'est une opportunité pour nous et pour les familles qui ont été séparées de leur père, de leur oncle, de leur frère pendant plusieurs années à la suite d'un procès totalement irrégulier. Nous ne sommes pas contre, je voudrais dire aux avocats qui sont intervenus, nous ne sommes pas contre que les gens soient condamnés, mais dans une nation civilisée, il faut que le procès qui conduit à des condamnations soit des procès justes.
En fait, votre problème, vous estimez que ce procès qui s'est déroulé il y a plusieurs années passées n'a pas été un procès juste?
Non.
Et par conséquent, ceux qui sont condamnés ne peuvent pas être en prison parce que le procès qui les a conduits en prison n'était pas juste.
Exactement.
Mais vous n'êtes pas opposé au fait qu'on ait quand même des gens qui doivent être condamnés pour avoir assassiné un ancien chef de l'État.
Effectivement, mais ces gens doivent être condamnés à la suite d'un procès régulier. Je m'adresse aux avocats qui sont intervenus parce qu'ils n'ont pas mis l'accent là-dessus. Et aucun Congolais ne peut accepter, un Congolais près de justice bien sûr, ne peut accepter qu'une personne soit condamnée en violation de la Constitution, c'est-à-dire en violation de règles qui régissent un procès juste et équitable. Je l'ai dit dans l'introduction, comment on peut se permettre, parce que les avocats sont intervenus, comment une juridiction comme la Cour d'ordre militaire à l'époque peut se permettre de dire que les enquêtes dans l'affaire Laurent Désiré Kabila vont continuer et entre-temps ils sont pressés de condamner les gens dans un procès qui n'a pas respecté toutes les règles de droit. Voilà la grande question. Maintenant, quand nous revenons à la question que vous avez posée d'ailleurs à l'un des avocats concernant l'amnistie. Une nation doit exister sur base de la justice. C'est vrai qu'on a tué un chef d'État, mais moi je vois par contre qu'on a tué des êtres humains. Au-delà du fait d'être un chef d'État, on est d'abord un être humain. Ça c'est important. Et vous avez aujourd'hui des gens dans les institutions qui ont enterré des femmes vivantes. Vous avez des gens qui ont tué des milliers de Congolais, qui ont bénéficié de la loi d'amnistie. On a tué des êtres humains et on les a tués sans raison. Et les gens qui sont aujourd'hui dans les institutions méritent d'être jugés et d'être envoyés en prison. et on a estimé que pour des besoins de sécurité, des besoins de paix, pour des besoins de la réconciliation nationale, il fallait que ces gens soient amnistiés. Nous disons la même chose. Il y a des familles entières qui souffrent du fait que leurs parents ne sont pas en prison, mais du fait que leurs parents sont envoyés en prison à la suite d'un procès non équitable. Et là, nous disons au président Félix Tshisekedi, qui a promis de regarder à ce dossier, de le faire. On parle de la sensibilité. Mais moi, je n'analyse pas des questions de sensibilité. Quel que soit le Congolais qu'on tue, c'est une question sensible pour ses parents. Quel que soit, qu'il soit voyou, qu'il soit Kuluna, qu'il soit, je ne sais pas, pauvre, mais c'est une question sensible pour les proches de ses parents qui est mort. Et donc, c'est une question sensible. Mais nous, nous disons, si on veut condamner ces gens, qu'on réorganise le procès et que le procès soit juste et équitable.
Et c'est ce que Adrien le disait, que si vous avez besoin de recours, allez dans cette logique.
Non, mais le problème, c'est que nous avons, nous, plusieurs possibilités qui se présentent à nous. Et sur ces possibilités, Maître Adrien ne peut pas nous imposer une voie. Nous avons la possibilité, par exemple, de demander au gouvernement de la République démocratique du Congo d'appliquer les recommandations, n'est-ce pas, de la Commission africaine des droits de l'homme et de peuple. Et
est-ce que cela, parce que dans sa pensée, il estime que ces recommandations risquent de fragiliser la justice d'un État indépendant.
Mais l'État a une indépendance limitée par ses propres actes. Et ça, c'est encore malheureux. Qui a demandé à la République démocratique du Congo de ratifier les instruments qui ont fait aujourd'hui que la Cour de la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple s'impose à nous? Qui a demandé au gouvernement congolais de le faire? C'est de manière volontaire que le gouvernement congolais a accepté que certaines de ses affaires soient soumises à cette commission. Et en tant que gouvernement sérieux, quand la commission à laquelle vous avez souscrit prend des recommandations, vous les examinez et vous les mettez en œuvre. Il ne faut pas être un État bandit. Ça veut dire un État réfractaire à tout ce qui est dit par les institutions internationales auxquelles on a adhéré de manière facile. C'est pour ça que nous nous disons, Monsieur Eddy Kapend et ses compagnons ont été condamnés à la suite d'un procès non équitable, et s'il y a des gens qui ont des preuves, des avocats qui sont intervenus, qui ont des preuves que le procès de 2001 était un procès régulier, un procès qui a respecté toutes les règles d'un procès acceptable, qu'ils lèvent le doigt, qu'ils le disent, mais alors, ils évitent les débats sur la question de la régularité du procès.
Alors, on va écouter Lola, Jean-Robert et Étienne. Lola, vous êtes à Ouattara. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Lola, vous êtes avec nous. Bonjour. Des petits soucis des lignes avec Lola. Jean-Robert, vous êtes en Bandaka. Bonjour Jean-Robert.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute. Quelle est votre réaction par rapport à cette démarche?
Merci Pierrot de m'avoir accordé la parole. Je suis très content, parce que je dois intervenir en tant que membre de famille parmi les condamnés. Et j'ai entendu les avocats parler et faire pression à la ZADO. Pourquoi la ZADO? Quel est le module qui a motivé la ZADO de pouvoir parler de ça? Vous savez que il n'y a pas longtemps qu'on venait de célébrer l'anniversaire, je crois, 19e anniversaire de Laurent Désiré Kabila. Et ça a réveillé les mers, les gens qui ont perdu les leurs. On se souvient un peu de ce qui s'est passé. Nous, on a eu l'occasion d'assister au procès. Nous avons vu que monsieur de la ZADO qui parle n'a pas tout à fait tort. Le procès, comme disait le juge d'essayant à la fin du verdict, il avait dit que le procès n'était pas terminé et le procès devait se poursuivre. C'est pourquoi nous comptons qu'un jour il y aura ouverture de ce procès. J'ai suivi un avocat qui disait que ce n'est pas opportun de la réouverture de ces procès pour le moment. Il n'y a aucun stimulus qui fait que on puisse réouvrir le procès. Mais je voudrais tout simplement lui poser la question. S'il était parmi les membres des familles de l'avion abattu à Kindu et il voit l'actuel président du Sénat passer devant lui, quelle devrait être sa réaction? C'est pour vous dire que on ne peut pas. La mort de quelqu'un, c'est la mort d'une personne physique. Tous nous sommes des membres de famille. Il ne peut pas minimiser aujourd'hui les gens qui pleurent ou les gens qui subissent des souffrances parce qu'ils ont leur responsable incarcéré dans un procès qui n'était pas régulier. Je voudrais tout simplement dire que si on veut privilégier la paix ce n'est pas seulement dans la politique, dans les manger et les boire. La paix aussi, c'est dans le mers. Nous vivons des situations très difficiles parce que nos frères ne sont pas là. Mais ce que nous voulons, tout simplement pour les gens qui interviennent, dire que le procès ne peut pas, on ne peut pas connaître la réouverture du procès et consorts, qu'ils pensent qu'il y a des gens qui sont derrière ces gens-là, soit leurs enfants, leurs frères, beaux-frères et consorts, qui souffrent, qui continuent à souffrir. Donc le président Kabila avait sa façon de voir les choses. Et il savait ce qu'il faisait, c'était sa politique. Mais aujourd'hui, si tous nous demandons, nous faisons pression, moi qui vous parle, nous faisons pression à la ZADO pour qu'on puisse faire quelque chose à travers les promesses du chef de l'État actuel. Donc ce n'est pas quelque chose qui a motivé Azado à pouvoir...
Alors ça dit que vous vous estimez que c'est dans la logique, parce que d'ailleurs, si vous avez suivi Jean-Robert en début d'émission, il y a notre ami Adrien qui disait oui, l'Azado pouvait s'engager dans cette démarche de solliciter des voies des recours. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a retrouvé Lola qui nous a appelé tout à l'heure de Ouattara? Lola est avec nous. Lola, vous êtes là, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Je suis avec vous. Il y avait problème de ligne.
Oui, exactement. Ça va maintenant.
Merci
oui.
de m'avoir rappelé. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci de m'avoir rappelé. Je pense que si j'ai bien compris les démarches de Azado et surtout sa préoccupation, c'est autour des procès non équitables. Or, nous savons, comme vous aviez rappelé au début, l'article 87 de la Constitution parle des mesures de grâce présidentielle. Parce qu'en droit congolais, M. Pierrot, il existe deux moyens pour effacer une peine. Or, qui dit peine présume qu'il y a eu jugement. Alors, s'il y a eu jugement et que tous on a été d'accord avec ce jugement, c'est alors qu'on peut maintenant mener des démarches pour soit avoir la grâce présidentielle ou l'amnistie. Parce que vous savez que l'amnistie, ça, c'est du pouvoir législatif. Et alors que la grâce présidentielle est exclusivement de la discrétion du président de la République. Mais préalablement, il y a un jugement pour lequel nous sommes tous d'accord. Maintenant, il faut effacer cette peine. Comme nous savons, au point de vue mesure présidentielle, le président peut prendre promettre qu'il va prendre une mesure présidentielle, une plutôt grâce présidentielle, pour X ou Y, monsieur. Mais ce qui est important, moi je pense que ce que la JADO devrait faire, il y a deux démarches. Première démarche, d'abord, comme il insiste sur la non-équitabilité, donc le procès non-équitable, ça c'est maintenant au niveau judiciaire. Ça c'est le plus là une affaire présidentielle. Parce que le président, c'est autant que travaille seulement sur le travail fait par les juridictions qui ont prononcé les jugements. Ou alors, si on est d'accord avec les jugements prononcés, mener maintenant les démarches à faveur des bénéficiaires. Là, il y a encore deux aspects. Soit ça doit se faire individuellement ou collectivement. Parce que si ce sont les démarches individuelles, je pense que la ZADO, attaque aux ONG des droits humains, peut aider comment respecter, suivre, mener la procédure pour qu'un individu puisse bénéficier, par exemple, d'une grâce présidentielle. Si ça doit être collectif, il y a aussi une procédure à suivre. Je pense que c'est là que nous aurons l'importance de la ZADO. Pourquoi je dis ça? Parce que le président peut promettre qu'il va prendre une mesure grâce présidentielle. Mais il faut qu'il y ait une notification qu'on appelle ordonnance. Aussi longtemps que l'ordonnance n'est pas là, les gens ne bénéficieront pas de cette grâce présidentielle parce que l'acte n'est pas là. Alors il faut maintenant faire les suivis, si ça a été promis, qu'on fasse les suivis pour que l'ordonnance soit là. Mais à ce moment-là, ils vont bénéficier. Mais dans l'entretemps, l'exécution du jugement continuera son bon nombre de chemins. Moi, je pense que c'est ça, à ma droite congolais.
Merci, merci beaucoup, Lola. Merci. Merci, Lola. Je reviens directement à maître Jean-Claude Katende, le temps qu'Étienne se prépare pour prendre la parole d'un moment à l'autre. Il s'agit que Lola, vous proposez quand même deux démarches. La première démarche, ou soit on estime que le procès, il était non équitable et il faut revenir au procès, c'est un fait. Ou soit on est d'accord avec la condamnation, on veut l'amnistie. Alors, maître, vous vous inscrivez dans quelle démarche au niveau de l'Azado? C'est accepter les procès, les jugements, quels qu'ils soient, et solliciter l'amnistie, ou estimer que le procès n'a pas été équitable et revenir. Lui, il voudrait qu'on s'inscrive dans une démarche assez claire, quoi.
Oui, notre démarche, elle a été progressive. Pendant le règne du président Kabila, nous avons insisté pour que les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples soient mises en œuvre. Ça veut dire, la première démarche, c'est que les prisonniers actuels soient mis en liberté. C'est la première recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La deuxième recommandation demande à ce qu'on organise alors un procès juste et équitable. Mmh. Et vous voyez que le souci de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ce n'est pas qu'on libère les gens, mais qu'on les juge conformément aux règles des nations civilisées. C'est ça. Mais nous avons constaté que le régime du président Kabila ne s'inscrivait pas dans la logique de respecter les traités ou les décisions ou les recommandations au niveau international. C'est pour ça que nous avons dit, parce qu'il y a déjà un jugement définitif, un jugement qui n'est plus, d'ailleurs vous allez vous rappeler, j'allais l'oublier, que les arrêts rendus par la Cour d'ordre militaire à l'époque n'avaient pas de recours. Encore une violation de la Constitution. En fait, les gens ont été privés du droit de recours parce que la Cour d'ordre militaire avait une mission spéciale de réprimer. Voyez-vous ? Et déjà même, par ce fait d'avoir privé les citoyens d'un droit de recours, on peut remettre en cause les arrêts de la Cour d'ordre militaire. Et aujourd'hui, nous avons un jugement définitif. Et en fonction de ces jugements définitifs, le président de la République, il ne lui est pas interdit de prendre. Si nous avions demandé au président Kabila la grâce présidentielle, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire politiquement, parce que directement intéressé par le dossier en tant que fils, n'est-ce pas, du président défunt. Donc, il faut analyser toutes ces questions. Ça veut dire que nous allions être insensibles à sa souffrance en lui demandant de poser un acte qui allait lui être très difficile. Mais le président Félix a l'avantage de ne pas être, d'abord, il est président de la République, d'avoir été loin des faits directement. Donc, il peut examiner en toute indépendance cette action, cette demande de l'Azado et pouvoir y accéder.
Voilà. Étienne, vous êtes à Guéména. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Ado Capi. Bonjour, M. Pierreux. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, merci, M. Pierreux. Je suis content de constater que l'invité est en train de donner certaines précisions. Et c'est peut-être les arguments que j'allais pousser. Il a été difficile, comme vient d'affirmer présentement l'invité, que sous l'ancien régime, c'était vraiment difficile que le président sortant, le président honoraire, à sa qualité de fils direct du défunt président, donc il a été difficile que soit on sollicite l'amnistie, soit qu'on sollicite des faveurs. Un aspect important que moi je trouve dans ce dossier, c'est quoi? Moi je pense que à l'heure actuelle, tout ce que l'Azado devrait faire, ou la démarche dans laquelle l'Azado devrait s'inscrire, c'était de solliciter la réorganisation de ce procès. Parce que il est vrai que la commission africaine avait émis des vœux, avait fait des propositions et qu'on sort. Mais tout ça n'a pas été acté. Mais à l'heure actuelle, il serait important qu'on puisse réorganiser le procès et que ça soit un procès juste
et équitable, permettant maintenant de définir les responsabilités de chacun. Et vous vous souviendrez, sous le régime Kabila, chaque fois dans les points de presse qu'on posait cette question à M. Kabila, il avait toujours dit que il ne veut pas s'ingérer dans les affaires de la justice et qu'on laisse la justice faire son travail. Moi, je pense que ce qui a été fait, c'est un pas, et peut-être parce qu'il y a changement de régime, qu'on puisse réorganiser le procès, et cela permettrait de voir...
Mais faudrait-il encore... Mais oui, mais là, faudrait-il encore... Etienne, faudrait-il encore que la justice admette que le procès n'a pas été juste et équitable. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, Pierrot. Je salue Jean-Claude Katende qui est avec vous au studio. Je dirais tout de suite là, Pierrot, parce que nous n'avons pas assez de temps.
Exactement, oui.
Que le procès n'était ni régulier et moins encore équitable, comme Jean-Claude Katende est en train de le dire. Jean-Claude Katende n'a pas commencé ce combat aujourd'hui. Il a fait des publications, il a intervenu plusieurs fois, hein, non seulement pour les procès de ceux qui ont tué Laurent, les présumés de ceux qui ont tué le président Laurent Désiré Kabila. Non, hein, Pierrot, les enquêtes pouvaient se poursuivre, mais sans suite aujourd'hui, et ça finit comme ça, bon, terminé, on ne connaît pas, ça aboutit à quoi? La justice doit être équitable, Pierrot, pour tous. Regardez, Pierrot, ceux qui ont tué en abattant cet avion-là de Kindu, il y a quelqu'un qui a relevé tout ça. Mais les membres des familles continuent à pleurer aujourd'hui, mais ils sont là, graciés encore. Vous voyez? Pourquoi est-ce
qu'on ne peut pas aussi... Ça veut dire que, quand on regarde la situation, que ce soit ce dossier que nous débattons ou d'autres dossiers, vous estimez que le travail de la justice est assez grand dans notre pays pour qu'on ait des procès équitables, que les gens soient condamnés, parce qu'on estime qu'ils ont été condamnés. Et d'ailleurs, vous avez, l'invité l'a dit, déploré le fait que la justice, dans ce temps, ait promis encore les enquêtes après avoir condamné des gens. Où en sommes-nous aujourd'hui? Etienne estime que rouvrir le procès, ça pourrait être bien pour qu'il soit vraiment équitable. On termine avec vous, Félicien. Merci de nous avoir rejoint. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, mais moi, je pense que tout le monde a vécu ce procès, comment il s'est déroulé. C'était un procès expéditif et un procès rocambolesque. Donc, je suis étonné d'entendre des gens qui disent mais pourquoi on doit seulement poser ce problème maintenant. Mais ce sont les mêmes gens qui disent que nous étions dans la dictature et maintenant c'est un état de droit. Ou bien ils ne reconnaissent pas Antoine Félix de Tshilombo Tshisekedi, qui dit qu'il est réellement le président de la République et que le régime a changé pour vous dire pourquoi seulement maintenant. Mais vous voulez qu'on pose quand? C'est justement maintenant qu'on doit poser le problème parce que c'était notre régime. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, et on ne pouvait pas poser ça à Joseph Kabila qui était jugé parti dans ses procès et lui poser encore ce genre de problèmes. Et puis en plus, nous avions dit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le respect des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a des gens dans ce procès qui n'ont rien à voir avec l'assassinat, mais qui sont là en train de croupir en prison, qui n'ont rien à voir, je vous dis. Même des gens qui passaient de loin, ce qu'on a arrêté et qui sont en Makala parce que c'était rocambolesque, parce que c'était expéditif, comme je venais de le dire. Donc, aujourd'hui, ce pays, je pense même qu'il a besoin d'une commission vérité et réconciliation. Parce que même la justice, on n'a jamais eu une justice depuis l'époque de Mobutu jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a des choses qu'on doit clarifier. Alors, quand on trouve les opérateurs des droits de l'homme posent les problèmes et on commence à leur dire pourquoi seulement maintenant. Mais il doit y avoir toujours un moment où on doit poser un problème. Mm-hmm. Il doit y avoir toujours un début à quelque chose.
Merci. Merci beaucoup, Félicien. Vous l'avez dit, d'ailleurs, le pays a besoin vraiment d'une commission vérité et réconciliation. Il y a tellement beaucoup de choses qui sont passées dans le pays. On a besoin d'en parler. On revient à vous, Maître Jean-Claude Katende, pour terminer cette émission. On a suivi, partagé. Mais quand on revient encore sur la question de l'opportunité, les amis parlaient de la paix, la cohésion, la sensibilité, la sécurité, autant de questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir après tout cet échange?
En fait, cet échange me permet de comprendre que dans ce pays, ceux qui ont pris les armes, qui ont tué, qui ont pillé, ont le droit à tous les avantages. Et on ferme les yeux. Nous avons déjà dans des institutions qui ne devraient pas être dans ces institutions. Logiquement et moralement, c'est insoutenable de voir les gens qui ont enterré des femmes vivantes, qui ont fait des crashs sur des avions, qui ont tiré sur des avions, et ces gens s'épavanent dans ce pays, passent à la télé, à la radio, comme s'ils étaient des citoyens modèles. Et entre-temps, vous avez des individus, des Congolais, qui ont été condamnés à la suite d'un procès irrégulier, non équitable, qui sont en prison, 19 ans. Et les gens trouvent que et ils peuvent être là-bas, les autres peuvent être continuer à jouir de bénéfices du régime. Le Congo n'avancera pas comme ça, M. Pierrot et le Menji. Il faut absolument qu'à un moment donné, nous puissions nous regarder nous-mêmes en face, nous dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est de trouver M. Eddy Kapend en prison parce qu'ils ont été condamnés par un procès qu'on ne peut même pas qualifier de procès. Ces erreurs-là doivent être réparées.
Oui, mais quand on parle de rouvrir les procès, réorganiser tout ça, faudrait-il que la justice aujourd'hui, militaire dans les temps, admette que exactement... Est-ce que la justice va dire aujourd'hui, oui, nous ouvrons les procès, cela veut dire nous reconnaissons qu'il y avait des erreurs.
Je vous dis, Pierrot et Lamenji, que les décès du président Laurent Désiré Kabila, il y a eu des commanditaires et des exécutants. Il a fallu que, comme l'émotion était vive à l'époque, il fallait qu'on trouve des boucs émissaires rapidement. C'est pour ça que le procès a été expéditif. Il fallait oublier l'affaire, oublier les commanditaires. En fait, les bénéficiaires de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Il fallait vite trouver des boucs émissaires. Et ceux qui sont en prison sont des boucs émissaires pendant que les commanditaires internationaux et nationaux qui ont bénéficié de la mort de Laurent Désiré Kabila continuent à s'épavaner.
Mais est-ce que la justice est-elle capable aujourd'hui d'accepter de revenir à ces procès? Pensez-vous que c'est possible aujourd'hui?
Juridiquement, je pense qu'on peut examiner la situation, mais politiquement, les commanditaires sont toujours là.
Alors, c'est pourquoi il y a Omar qui disait tout à l'heure, si on a initié des gens, on estimait qu'il y a la question de la paix, et c'est pourquoi les gens revenaient sur la question de l'opportunité. Juste en un mot, y a-t-il l'opportunité sur le plan politique et sensibilité? On est revenu encore là-dessus.
Vous voyez, le problème que nous avons au Congo, c'est de nous attacher beaucoup plus à des situations factuelles, à des situations factuelles, au lieu de nous attacher aux lois et aux droits. Je pense qu'en recourant aux lois et aux droits, on peut résoudre ce problème. Mais parce qu'on dit, bon, c'est tel. Est-ce qu'on peut faire? C'est tel autre.
Voilà. Ça doit être une question de loi et de droits. Merci Exactement. Beaucoup, Maître Jean-Claude Katende, d'avoir été avec nous dans ces débats très intéressants. Alors, nous le poursuivons sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Jean-Claude Tiala qui était à la mise en onde de Nico Kalamba. Il était à la réalisation de ce magazine Kepiro et la Mengi. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission est sur www.radiokapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci et surtout, passez d'agréables moments en compagnie de Radio Kapi. Au revoir.